Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. L'émission d'hier, elle était tellement bien, je ne sais pas qui j'aime le plus, Arthur H ou son père Jacques Higelin.
Puis en plus, il y a la fille, Isia aussi. Hein.
Ah ouais, non mais famille trop bien, émission trop chouette.
Voilà, mortel, vrai, moi j'en veux encore des émissions comme ça.
C'est sympa cette émission.
Quoi attends, comment péter l'ambiance de groupe de la future équipe dirigeante en une leçon par Juliette Arnaud, j'ai l'impression.
Sympa, non mais t'es raide quand même.
Raide ouais. Je ris.
Bah t'es bien la seule.
Non mais c'est raide qui me fait marrer.
Mais quoi?
Ironiquement parlant, si on veut passer un cap, va vraiment falloir envisager de faire passer un contrôle antidopage aux invités, sinon c'est pas équitable.
Enfin... Mais n'importe quoi, mais n'importe on quoi. Était là, nous, Arthur H était en pleine possession de ses moyens.
Bah oui.
Ah ouais. Et donc quand il dit ça, ça va, on est bien.
Winnie l'ourson, c'est formellement interdit en Chine. Ah ouais, si tu regardes Winnie l'ourson, tu peux passer pas mal de temps au goulag.
Et c'est la réalité, crétine.
D'accord, admettons.
Bah oui.
Et ça
c'est sûr qu'on aurait tous préféré que Quentin devienne apiculteur, par exemple. Ça aurait été plus simple qu'il fasse du bon miel.
Oui, à part que c'est vrai, les abeilles ont déjà assez de problèmes comme ça avec les néocotinoïdes, mais sinon...
Sinon, c'est drôle, métaphoriquement parlant.
Bah oui.
Ah d'accord.
Oui.
Et là, on est toujours dans la métaphore.
Arthur, ça rentre mieux comme ça.
Ah bah oui, certainement, oui, bien sûr, avec un gros joint.
Oui, d'accord, alors là...
Là, c'est peut-être.
Bon, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi, j'ai appelé le service logistique, on a 200 tests antidrogue qui arrivent.
Quoi? L'état policier, le fascisme, à quand les tests génétiques? Super.
Ça va, tout de suite, les extrêmes, Guillaume. Je dis juste...
Bah moi, je dis juste que si tu fais ça, je vais te botter le cul, d'accord?
Et ça, c'est pas une métaphore. Bonjour la France Inter, vous écoutez La Jeune Pousse en pleine croissance et voici les trois informations qui vont s'épanouir. La délinquance prend chaque jour des formes nouvelles. Maintenant, les secouristes se mettent à sauver des migrantes enceintes en plus.
Non, mais n'importe quoi.
Et pourquoi pas une immunité humanitaire pour protéger ces délinquants tant qu'on y est ?
Écoutez Pierre, la charité s'adresse à tout le monde, vous ne pouvez pas faire deux poids, deux mesures.
Le président Macron a beaucoup d'ambition pour la langue française, pour la rendre plus influente. En Afrique, beaucoup d'intellectuels y voient des relents colonialistes. Qu'en pense le chef de l'État ?
And that's why we're here.
Ok. Nos journées sont si chargées que annuler un rendez-vous au dernier moment serait devenu une source de jouissance, un soulagement instantané. Vérifions tout de suite.
Moi, je déteste faire ça.
C'est horrible, mais qu'est-ce que c'est bon.
On est bien soulagés qu'elle soit là quand c'est Vizorek qui annule tout. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, Charline, une équipe de toute beauté. Oui, c'est une variante avec Belle Équipe. C'est une équipe 1, 2, 3, Bauer, Meurice et Clara. Tout d'abord, bien sûr, Mélanie Bauer, qui, si elle était un film, serait Elephant Man.
Merci.
Parce que, guidée par la curiosité et le goût de la marge, c'est pas demain qu'elle s'allonge pour mourir. Mélanie, de quoi bon cours?
Bonjour, non, je suis très beau, regardez-moi sur Internet. Je parle de moi. Je vais parler de moi aujourd'hui.
Pendant 4 minutes.
Oui, exactement.
Très bien. Et bien ensuite, nous aurons Guillaume Meurice, qui, s'il était un film, serait l'emmerdeur. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer.
Si, tu as bien compris.
Non,
d'accord.
Ouais.
Okay. Et bien moi, scoop aujourd'hui, puisque j'ai trouvé un militant PS, un des derniers. Hein. Je l'ai interrogé et j'ai été très gentil avec lui.
Oh, vous êtes méchant, vous êtes odieux là.
Oh, mais ils sont fragiles aussi. Il faut dire qu'ils sont fragiles.
Et enfin, Clara Dupont-Monod, qui, s'il était un film, serait bien évidemment le L'Oréal. Et vous allez me dire pourquoi? Parce que Madame Robinson, parce que les fantasmes d'Alex Vizorek, et que c'est pas parce qu'il est pas là qu'il faut pas qu'on pense à lui.
Oh. Ok, bonsoir Juliette, bonsoir à tous. Et moi, je vais parler de la crise d'adolescence chez les adultes. Ça vous parle, Guillaume Meurice?
Ah,
allez,
c'est bon, ça va.
Je me tourne vers celle qui est au centre de cette émission et qui va ambiancer la start-up. Vous enregistrez votre
premier... Moi, je vais parler de la crise de vieillesse chez les enfants. Ils sont stressés.
Ah d'accord, bon, on va faire un sujet 4 alors. Alors vous enregistrez votre premier single à 15 ans avec vos cousins. Single qui fera malheureusement un flop. Alors vous vous lancez dans des études de droit, mais une fois le diplôme en poche, vous replongez dans la musique et vous sortez un premier album en 93. Vous nous offrez des tubes comme Sensualité, Le Monde Tourne Mal, Restez Femme et le fameux Manhattan Kaboul en duo avec Renaud. Vous chantez aussi avec Youssou N'Dour pour l'ouverture de la Coupe du Monde 98. Il paraît que vous avez été élue meilleure danseuse de disco en Belgique. Vous êtes ambassadrice de plusieurs ONG, dont l'UNICEF, Handicap International, Amnesty International. Vous êtes donc, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Axel Red.
Yes,
c'est moi.
Charline Vanunacker. Par Jupiter.
And that's why you are here, comme dirait Emmanuel Macron. Bienvenue, Axel Red. Bienvenue dans Par Jupiter.
Vous êtes bien réveillé, hein.
Oui, pas vous?
si, j'ai intérêt là.
Ah, vous inquiétez pas, le rythme va ralentir, on va se poser un peu et parler de votre dernier album, Axel Red, qui s'intitule Exil et qui sort demain. Demain le grand jour. Axel Red, vous chantez en français, essentiellement dans cet album, mais c'est aux États-Unis que vous partez souvent écrire, enregistrer, produire. On vous a connu enregistrant à Memphis ou à Nashville. Celui-ci, c'est à Los Angeles. Y a un son américain pour votre musique. Vous voulez mettre une touche américaine. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas, à Los Angeles?
En fait, comme vous dites, j'étais à Nashville déjà pour mon deuxième album. J'étais à Memphis plusieurs fois. D'ailleurs, c'est vraiment une constance un peu dans ma carrière, je dirais. Ouais. J'ai fait un album à Woodstock. J'ai travaillé à New York. En fait, c'est vrai que j'écoutais, ça fait toujours un peu cliché, j'écoutais cette musique américaine quand j'étais enfant. Ma mère avait une grande collection de disques. Ça fait vraiment un peu cliché. Mais
pas tellement, mais bon, ça explique des choses.
Mais bon, en fait, au départ, je chantais carrément en anglais. Je suis néerlandophone d'origine. Mm-hmm. Et donc, j'ai choisi le français.
Ça, c'est pas commun déjà. Hein.
Non, et d'ailleurs, au départ, c'était vraiment un exercice de style, d'ailleurs, pas évident, de ce que je voulais faire un beau français, et avec des métaphores, avec de la poésie, comme la langue française l'exige. Des fois, on en est un peu très, très direct, et ça passe, et c'est même très beau. Mm-hmm. Mais donc, qu'est-ce que je recherche là-bas? En fait, c'est l'origine des musiques qui m'inspirent. Et je suis retournée cette fois-ci aussi en 14 jours. En fait, j'étais travaillé avec Nashville, Memphis et Los Angeles. Mm-hmm. L'idée, c'était, je voulais travailler avec chaque fois une personne avec qui je compose et avec qui je réalise en même temps la chanson. Ça se fait beaucoup de nos jours et j'ai fait beaucoup d'albums, en fait tous mes albums où j'ai réalisé, donc non seulement je composais mais je co-réalisais ou je réalisais ces albums, et c'était toujours un long processus pré-production, puis à un moment donné avec tous les musiciens en studio, et puis post-production et tout ça, et puis à un moment donné c'est génial, mais et puis j'ai eu des superbes échanges avec tous les musiciens dont je rêvais de travailler avec eux.
Dont Dave Stewart?
Oui, et maintenant, c'était Dave Stewart. Donc ici, en fait, j'ai travaillé. Maintenant, pour finir, je me suis arrêtée à Los Angeles et c'est là où j'ai tout fait. Parce qu'il y avait quelque chose de nouveau. J'étais dans les hills, dans les collines où ont vécu Carole King, grande inspiration pour moi pour la composition. Joni Mitchell, Neil Young habitait là-bas, Bill Withers y habite toujours. Et donc j'ai travaillé effectivement avec Dave Stewart, la moitié de New Red Mix, qui a vécu à Paris et qui me connaissait et qui m'a donc contacté. Parce qu'en plus, la main droite, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé dans le passé. Et deux autres exilés, parce que j'appelle ça les exilés, on était tous en quête de lumière, le gris de l'Angleterre, de la Scandinavie, ça mine. Et donc, au-dessus de cette colline, la lumière, j'ai travaillé avec deux Scandinaves aussi. Et donc, l'idée, c'était que, en fait, la maquette devenait le résultat final. Et du coup, en fait, il y a moins ce traumatisme de se dire, j'ai perdu le truc là. Les peintres ont ça aussi, il paraît, quand ils commencent au crayon et après ils mettent des couches et des couches et tout à coup ils disent, mais attends, mais je l'avais là au départ. Et maintenant, le fait d'avoir travaillé sur la maquette et que la maquette est devenue comme le résultat final, c'était très efficace et j'avais besoin de ça.
C'est pour combler la peur de la toile blanche, si je comprends bien. Axel Red, c'est son dernier album qui s'appelle Exil, et Mélanie Bauer va y revenir tout à l'heure. Quand on vous a demandé, elle va parler d'elle, mais c'est pour parler de vous.
Mais oui,
de son
évidemment.
Dernier album, bien sûr, on écoutera un extrait tout à l'heure d'Axel Red. Pour l'instant, on vous propose Rex, Orange County. Attention, nuance. I don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said, I love you till the day that I die. Maybe she's right, 'cause I don't wanna feel like I'm not me. And to be honest, I don't even know why I let myself get down in the first place. Trying to keep my mind at bay. Some flowers still move at night, waiting for
seen through my eyes. You know you need to get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an open eye. I promise I'm the one for you, just let me hold you in these arms tonight. I'm lucky to be me, you can see it in my face. Back when I fucked my shit up too many times, why would I let myself get down in the first place? Trying to keep my mind at bay. Sunflowers still move at night. Waiting for a minute till the sun seems through my eyes. Trying to get down, down, and down. She sat me down and told me that I didn't have to cry. Said I didn't need to get down or feel empty inside. And then told me that she'll love me for as long as she's alive. And well, maybe she's right. Cause I hate it when I feel like I'm not me. See, I honestly don't even know why. I honestly don't even know why.
Sunflower, Rex Orange County sur France Inter avec la programmation musicale de Djoubaka et de musique, il en est question dans cette émission puisque notre invité c'est Axelle Red qui sort un nouvel album. Elle sort d'une tournée de 200 dates avec son album acoustique et là ça part plus dans le pop et ça on le verra tout à l'heure. Avec qui d'ailleurs? Avec qui le verra?
On le verra avec Mélanie Bauer. Et puis ensuite il y aura Guillaume Meurice et puis ensuite il y aura Clara Diopomono.
Non,
Clara.
Le nouvel album s'appelle Exil.
Garde l'homme comme maman.
Ouais. C'est vrai. Et on va y revenir, mais avant cela il faut en passer par l'information, Axelle Red, évidemment.
On écoute. Si à 19 ans vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie?
Le journal de presque 17h17.
S'il y a un truc qui s'apprend pas, c'est la classe.
Et on commence avec les titres.
On parlera de l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste.
Oui, ça devrait se jouer entre Xanax et Lexomil, à moins d'une remontée surprise de suicide par pendaison.
On parlera également musique et contestation avec du rap produit par le groupe des jeunes écologistes.
Oui, du hip-hop écolo, hein, ça va groover dans les toilettes sèches.
Il y aura des brèves.
Oui, ça va groover aussi, car comme le dirait Alex, j'irai au bout de mes grèves.
Mes brèves.
Non, il dit grève maintenant, Alex. C'est un punk à chien.
C'est là où la raison s'achève, c'est
tout
ça,
hein,
bien sûr. Et c'est aujourd'hui que les militants socialistes sont appelés à voter pour élire le futur premier secrétaire.
Oui, les socialistes sont contents, c'est la seule élection qu'ils sont certains de remporter.
Oui, moi je serais eux, je me méfierais quand même avec le peu de bol qu'ils ont. Si ça se trouve, c'est Bob l'éponge qui va être élu.
Oui, Bob l'éponge qui a plus de charisme que les quatre candidats réunis, hein, on le rappelle.
Politique française toujours, avec les relations difficiles entre Gilbert Collard et les médias.
Oui, on l'écoute, il était sur la chaîne parlementaire.
Moi par exemple, BFM TV, il m'insupporte.
Vous y êtes, non?
Non, il m'invite de moins en moins. Hein. Quoique Ruth Elkrief m'avait invité vendredi soir, je crois. Bon, ouais. J'y suis pas allé à l'inviter. Non.
Moi, c'est pas
Ruth Elkrief, je me trompe.
Oui, tu te trompes un petit peu, Gilbert. Mais c'est pas évident de pas se tromper quand on a le QI d'une table de PMU.
PMU toujours. Oui. Emmanuel Macron a appelé les retraités en colère à, je cite, un petit peu de patience.
Ah là, il est malin. Il demande aux vieux de patienter. Ça, c'est pas mal. Moi, j'ai fait pareil. Avec ma grand-mère de 103 ans, je lui ai dit oui, je te rembourserai, mamie. Hein, je te demande encore un petit peu de patience.
Le premier ministre Édouard Philippe a envoyé un courrier à Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée Corse, mais en s'adressant à lui comme s'il était ministre.
Vous voyez, Édouard Philippe, il est comme nous, en fait. Les ministres, il ne les connaît pas.
Ah, il fait au pif.
Un jour, il va croire que Castaner, il est ministre.
Mais Guillaume, il est ministre, Guillaume.
Ah bah oui, je savais même pas.
Oui, mais si, il est ministre des Relations avec le Parlement.
Ah bah pensez à le prévenir, parce que lui, il n'est pas au courant non plus. À mon avis, il pense qu'il est youtubeur.
Bon, on y pensera. Ouais. International à présent, avec le décès de l'ex-espion russe au Royaume-Uni.
Oui, Poutine assure que cette fois-ci, il n'y est pour rien du tout.
Mais une légende raconte qu'il n'a rien à voir du tout non plus avec les autres empoisonnements.
Hein. Oui, et qu'il s'appelle Ryo Kezak, bien évidemment.
On enchaîne avec une belle initiative du groupe des jeunes écologistes.
Oui, un rap pour lutter contre la réforme de l'université.
Alors on aime, on vous en parle.
Je haine quand je parle de sélection, il y a comme un goût de gêne quand je dis frais d'inscription.
Il y a comme un goût d'aigreur chez les jeunes sur Parcoursup, il y a comme un goût d'erreur quand ils croient qu'on y est.
Ouais, on déconne, ouais, non, c'est l'école qui m'a dit, t'es l'école, non.
Non, non.
Définitivement, non.
C'est long. Consommation à présent.
Les eaux en bouteille de nombreuses grandes marques sont contaminées au plastique.
Eh ben, c'est Juliette qui a raison depuis le début, hein. Ça, ah, on le savait.
Elle nous enterra tous.
Oui, on termine avec deux brèves, Charline.
Et la première se passe à Besançon. La police a arrêté un homme pour avoir jeté de l'argent par les fenêtres.
Oui, heureusement que l'Assemblée nationale n'est pas à Besançon.
Une dernière à Agen. Ouais. Ils lancent des œufs Kinder fourrés de cannabis dans la cour de la prison.
Ah, ils sont vraiment choux, les jeunes femmes de Samina Seri.
Par Jupiter, vous êtes sur France Inter. Et c'est Axel Red qui est avec nous aujourd'hui. Votre nouvel album s'appelle Exil. Et il en a question ici dans ce premier sujet. Le premier sujet s'appelle Benoît. Benoît, il a secouru une famille de réfugiés, dont une femme sur le point d'accoucher. C'était des Nigérians. Il a donc été convoqué hier par la police aux frontières qui examine si le suspect peut bénéficier de l'immunité humanitaire. Alors, si vous croisez un réfugié, par exemple en montagne, à la frontière italienne, que faire pour lui faire passer la frontière sans se faire gauler ? Modus operandi.
Récapitulons. Tu arrives au poste de douane. Qu'est-ce que tu fais ?
Ben, je mets le gyro et je passe la frontière tout en douceur.
Et si les douaniers t'arrêtent ?
Je montre les papiers, là, tout en expliquant que je transporte un blessé grave.
Et ?
Ben, c'est tout, non ?
Mais non, du con. Je t'ai dit le plus important. Tu prends un air innocent.
Ah oui, pardon, c'est ça, monsieur Duval.
Vas-y, montre-moi.
Comment ça ?
Fais-moi une tête d'innocent.
Comme ça ?
T'as pas l'air innocent, là ? T'as l'air complètement débile.
Non, monsieur Duval, je sais pas comment on fait une tête d'innocent. J'ai toujours été coupable.
C'est Laurent Gamelon et Bruno Lechet dans Rien à déclarer, le film de Danny Boone. Alors, ça se passe donc dans les Hautes-Alpes où les réfugiés traversent les montagnes. Il s'appelle Benoît, il est secouriste et bénévole dans une association d'aide aux migrants. Axel Red, vous êtes très sensibilisé à ces sujets-là. Comment vous réagissez quand vous voyez apparaître un nouveau cas de ce qu'on appelle le délit de solidarité ? C'est-à-dire quand on est solidaire avec les réfugiés, on est soupçonné d'eux, on est convoqué, etc.
C'est un peu comme à l'époque où les Allemands étaient là. Et ceux qui cachaient quelqu'un au grenier. En fait, récemment, j'avais vraiment besoin de savoir ce que ma famille avait fait pendant la guerre.
Ah oui ?
Et j'étais très rassurée de voir que du côté de ma mère et du côté de mon père, ils avaient quelqu'un dans le grenier. Donc ils étaient dans la résistance, carrément. Donc c'était rassurant, quoi. Et voilà, je trouve que ce monsieur, il mérite une médaille. Et il y a un problème avec les lois, je dirais. Mmh. Comme à l'époque des Allemands, les lois des Allemands régnaient. Bah ici, il y a clairement un problème avec les lois.
Surtout que c'est interdit aussi de ne pas assister quelqu'un qui est en danger, donc une sorte de schizophrénie.
Oui, c'est vrai. Effectivement, et cette dame était sur le point d'accoucher, et ces gens traversent la montagne dans la neige, etc. Vous auriez pu devenir juriste d'une ONG, Axel Red, vous avez fait des études de droit que vous avez achevées, vous avez plaidé un petit mois avant de repartir vers la musique.
Un plan B. Hein.
Non. Allusion à Christine Angot.
Qu'est-ce qui n'était pas un plan B? Avocate musicienne.
Non. En fait, à 6 ans, je voulais. À 6 ans, je voulais être chanteuse. Et d'ailleurs, comme vous avez dit, à 15 ans, j'ai fait un disque. Et en fait, le jour où pendant mes études, j'ai eu un single qui a plutôt bien marché. Et le jour où j'ai eu mon diplôme, mon album était prêt. Et j'ai eu la chance, en fait, effectivement, après un mois, on m'a appelé du tribunal pour me dire il faudrait quand même faire un choix, là. Mais moi, c'était évident, je voulais faire de la musique. Donc, le plan A, c'était quand même la musique.
Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, vous recanalisez tout ça en étant ambassadrice pour diverses associations, en vous engageant et en n'ayant pas votre langue dans votre poche non plus. Juliette, vous aviez une petite question, parce que ce cas-là de Benoît, qui rencontre cette famille de réfugiés
ça fait quand même écho à la chanson Manhattan Kaboul, où on a le monde occidental et le monde oriental, entre guillemets, qui se rejoignaient dans une chanson, dans un duo. Et là, tout à coup, Benoît, quand il secourt cette femme nigériane enceinte de 8 mois et demi au milieu des montagnes françaises, c'est comme si tout à coup, ils traversaient le miroir l'un et l'autre et se rencontraient. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse écrire comme ça une chanson qui serait une suite de Manhattan Kaboul ?
Ben, je viens d'écrire un album qui s'appelle Exil.
Et je vais vous dire d'ailleurs les deux premières phrases de la première chanson. C'est nulle part où aller pour t'héberger. C'est les deux premiers vers.
Allez hop, Anto, l'accélérer. Terminé.
Avec donc, les femmes enceintes. Allez.
Ça veut dire que c'est en ça fait, qui énerve de toute façon votre
non,
écriture.
Ben moi, ce que je me suis dit en fait, c'est que ben déjà l'album précédent, j'étais partie sur ce thème, mais en fait, je voulais écrire surtout des chansons romantiques et j'étais partie sur une, en fait, je commence avec du romantique et puis je termine toujours avec des choses qui me sont là, c'est plus fort que moi. Donc c'était une relation amoureuse et un couple jeune, pur et mais idéaliste tous les deux. Et à un moment donné, lui, il trouve que le monde est trop heurté, donc il quitte le monde en espérant que, apporter un changement. Comme on voit souvent dans les mythologies, en fait, le dieu qui va un jour revenir par la mer pour apporter un changement. Mais ici, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer parce que je laisse la fin ouverte. Mm-hmm. Mais du coup, en fait, j'ai pris le thème plus large avec la suite, donc cet album, et je me suis dit en fait que quelque part on est tous des exilés et on a tous des voyages à entreprendre pour atteindre notre idéal. Mmh. Et selon les critères d'une société ou les valeurs d'une société, ça peut être matériel et si c'est capitaliste, c'est très matériel. Ça peut être spirituel, c'est la gloire, c'est la quête des gloires ou répandre la gloire de ces dieux. Et puis donc il y a des dangers à affronter, il y a des prix à payer, et moi je me dis, j'ai essayé de trouver le sens là-dedans, et je me dis que si on veut éviter qu'il y en a trop qui voyagent en chaîne, mm-hmm. Peut-être c'est soyons un peu dans le partage et tendons la main justement à celui qu'on a besoin, parce qu'on est content que quelqu'un te tend la main quand toi t'en as besoin, et soyons un peu moins gourmands et voulant un peu moins. Et donc j'ai fait un peu, j'ai connecté un peu les points en allant chercher dans les contes de fées, les mythologies, l'histoire, toutes les cultures aujourd'hui.
C'est votre inspiration pour cet album qui s'appelle Exil et dont le premier titre c'est Who's Gonna Help You, qui est le single. Et on va découvrir nous un autre aspect de vous, Axel Red, à travers cet album avec Mélanie Bauer qui est avec nous.
Oui, je me présente, je m'appelle Mélanie. Bon alors, comme Alex Vizorek se plaît souvent à le rappeler, je suis un peu un ovni hein, pour mes amis critiques musicaux, puisque toujours tout genre confondu, je suis spécialisée dans les disques qui ne se vendent pas. Pour faire un parallèle, je me sens un peu parfois comme une Clara Dupont-Mono qui présenterait une émission musicale sur Radio Nova, par exemple. Vous voyez
Goldman a beaucoup de succès auprès des branchés.
Mais bien sûr. Heureusement, France Inter, ce n'est pas RTL ou Europe 1. Non, ici, on sait rester curieux. Alors, pour devenir cet ovni, il m'a fallu vivre dans une sorte de bulle, un exil du top 50. Mais même en exil, je ne suis pas passée à côté d'Axel Red. J'ai donc quelques souvenirs de vos chansons, le duo avec Renaud, bien sûr, le fameux Sensualité. Et pour le reste,
j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on?
C'est moi ça, j'avais oublié simplement. Vous avez aussi, là, j'ai repris aussi un jour Mélocotone.
Ah mais oui, je sais, j'ai vu. Ah, donc. Parce que j'ai dû refaire toute mon éducation raide pour cette chronique. Rouge,
parce qu'elle vend trop de disques, c'est pour ça.
Oui. Mais oui. Donc rouge, pastone, hein, l'éducation raide. Et je suis tombée sur des titres tout aussi ovnis que moi, dans toutes les langues, toutes les sonorités, tous les duos, toutes les chorégraphies. Et je dois le dire, sur ces trois dessinées, vous n'avez pas chômé. On vous retrouve même donc à la World Cup 98.
L'émotion et la passion au service du ballon, c'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez.
Alors ça, chanter le foot, c'est un exploit.
C'est fort.
Mais c'est pas étonnant parce que vous avez une base musicale anglo-saxonne et dans les pays anglophones, on n'est pas chanteur si on n'a pas au moins une fois chanté sur une pelouse. Et puis, quelle gloire, 98, la France a gagné,
exact, oui, exact.
Grâce à vous. Et puis, en creusant...
La Belgique, par contre,
oui,
moins.
Bon, ça
va marcher, là.
En creusant dans votre boule à facettes, j'ai aussi découvert que vous étiez disco, notamment en duo avec le roi du genre, Céron et Supernature.
The
Et c'était où avec Sharon?
C'était à Live Aid, en fait. Ouais, j'ai acheté le porte-parole avec Bob Geldof pour.
Elle est super, la reprise. Super sacré énergie. Hein.
Merci.
Alors donc, grâce à cette...
Je me rappelle qu'ils avaient surtout, en fait, après, tu y vas pour la bonne cause, pour l'Afrique et tout ça, et après, tout ce qu'ils ont pris, c'est une photo, parce que j'ai eu le malheur de porter une mini-jupe, et ils se sont fixés sur cette mini-jupe plutôt que parler de l'Afrique. C'est quand même, ils sont quand même graves.
Alors, grâce à ce moment avec le maître, j'ai mieux compris pourquoi vous ouvrez ce nouvel album Exil par un titre d'inspiration house, clubbing, avec clapping, groove efficace, et puis cette belle chorégraphie sur le clip Who's Gonna Help You.
Tu pensais tout changer, mais que changes-tu dans la paille couchée? Tu attends ton heure. Si t'avais su.
Mais pour vous dire la vérité, ce qui m'a le plus épatée dans votre carrière, c'est ce super disque féministe et engagé de protest song que vous avez sorti en 2009 en anglais. Un double album qui joue dans ma catégorie, Sisters and Empathy, avec notamment cette reprise de Dylan.
You may be an ambassador to England or France. You might like the gamble, you might like the dance. You may be the heavyweight.
Ça, les Français sont passés à côté de cet album, non?
Alors justement, c'était ce que j'allais dire.
Oh mince, hein. C'est mal.
Bah oui, justement, je crois que Sisters and Empathy joue tellement dans ma catégorie que malgré son succès en Belgique, parce qu'il a bien marché en Belgique, je suis pas sûre qu'il soit sorti en France.
Non, en fait, je vais carrément vous dire la vérité, c'est que j'ai manqué de courage. Parce que c'était vraiment quelque chose que j'avais écrit. Je vais placer les choses, c'est une sorte de thérapie, hein, écrire, même si c'est dans le bonheur, dans le malheur. Et donc, effectivement, 24 chansons sur ce thème, les crimes sexuels faits aux filles, aux femmes, allant de la prostituant, de prostitution, de pédophilie, et puis tout autour du mot empathie et voir notre responsabilité là-dedans, et puis est-ce qu'on peut, et sans vouloir une société qui a trop de règles, donc je me dis, on peut qu'aspirer à ce moment-là à une humanité d'un niveau supérieur. Mm-hmm. Et en fait, j'avais tellement pas le courage d'avoir des questions comme alors en fait vous utilisez votre engagement pour vendre des albums et nana, et je manquais de courage en fait, sincèrement, parce que c'était vraiment une sorte de remise en question, de recherche à trouver mes réponses, parce que après cet album j'ai écrit encore pendant un an.
Ça, je voulais faire un disque.
Merci. Je voulais faire un livre et je n'arrivais pas à trouver le, parce que je suis pas écrivain. Bah, je fais des chansons, mais je suis pas écrivain de livres. Et je me disais, est-ce que ça allait vers un doctorat à un moment donné, ou plutôt vers un roman,
une thèse.
Et à un moment donné, en fait, mon homme, autant qu'il est très, il soit très féministe, il en avait un peu marre. Il disait, tu sais, en fait, je suis tombée amoureuse de toi parce que t'étais positive et tout ça.
Et là, vous enfermez.
Et là, je commence à sombrer de plus en plus. Et puis, voilà. Obama a été élu. Et puis, je me dis, ben, en fait, voilà, on va faire ça un autre jour.
Et cet album a plu à Mélanie. Donc.
Alors, dernier étonnement, j'étais étonnée sur ce nouveau disque avec ce choix inhabituel de poser en plein milieu de l'album un instrumental. Le grand retour. C'est vrai que chez nous, on a tendance à penser que les chanteuses ne sont que de jolies interprètes. Et ça fait plaisir que vous vous affirmiez avec ce titre en tant que musicienne. Et comme on est fou à France Inter et qu'on aime sortir des singles et des sentiers battus, la preuve, je suis là aujourd'hui, c'est ce grand retour que j'ai eu envie de faire écouter à nos auditeurs afin qu'ils découvrent un aspect de vous qu'ils connaissent peut-être un peu moins que votre vie amoureuse ou vos couleurs de cheveux, votre musique intérieure.
Ou votre mini-jupe.
Axel Red.
Thank you.
Axel Red, vous écoutez cette musique en fermant les yeux. Mélanie Bauer dit c'est votre musique intérieure. Pourquoi cette plage? C'est la Axel Red musicienne au milieu de l'album Exil.
Je joue pas souvent du piano sur mes propres chansons, alors je me dis au moins une fois on l'entend. Et en fait, comme plein d'instruments, en fait, jouer la mélodie, je me dis, j'ai encore fait ça. Hein. J'ai dans 3 albums, j'ai des instrumentales. Dès que je pose ma voix, on n'entend plus la prod. Et je me dis, c'est dommage. Je gâche tout avec ma voix. Et puis j'aimais bien cette idée que après donc 2 épisodes, presque 23 chansons où je raconte cette histoire d'amour, qu'il revient et on ne sait toujours pas s'il est mort, s'ils se sont remis ensemble, et j'aime bien, un peu comme une peinture abstraite.
Et voilà pour cet aspect de votre travail souligné par Mélanie Bauer. Merci Mélanie. Vous êtes sur France Inter par Jupiter en compagnie d'Axel Red et de Guillaume Meurice.
Oui, je vais revenir sur le gros événement de la journée, l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste. C'est vrai que depuis ce matin, on sent une tension de malade dans les rues. Tout le pays est en stress. Il fallait dire que Clara Dupont-Mono a remis 2 fois du déodorant. Ça serait pas du luxe qu'elle en mette une 3e fois d'ailleurs. Alors, pour vous parler de cette élection, il me fallait trouver des militants. Je suis juste à côté, comme ça. Il fallait trouver des militants PS, et c'est ça le problème. Comment faire en France pour trouver des militants PS? Ils sont encore moins nombreux que les reprises de Michel Sardou dans la discographie d'Axel Red. On comprend pas d'ailleurs ce sectarisme, mais c'est pas le sujet. Et puis, je me suis souvenu de Pierre. Pierre, c'est un militant que j'avais d'abord croisé à une soirée soutien à Manuel Valls pendant le débat de la primaire. Il adore Valls, mon Pierrot. Et d'ailleurs, souvenez-vous, je l'avais gaulé en train de pas du tout suivre le débat.
Si, tout à fait, je suis le débat, complètement.
Mais qu'est-ce qu'il a dit Manuel Valls depuis le début?
Des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Des choses très concrètes. Sur la République, pour une République plus forte.
Voilà, hein, c'est pas la République qui était forte ce soir-là, c'est la binouze hein, plutôt. Elle était au moins aussi forte que le score de Hamon contre Valls. Et Pierrot, je l'avais recroisé encore le soir de la défaite de son protégé, mais quand même de victoire du PS avec une belle primaire.
On a perdu ce soir, c'est triste. C'est pas la victoire du PS du tout.
Ah bon?
C'est la décomposition du Parti Socialiste, oui, plutôt.
Ah mais donc en fait, la belle alliance populaire n'est pas du tout belle, en fait.
Non, elle est horrible.
Voilà, donc ça allait pas fort. Ça allait pas fort, on était à 2 sur l'échelle Michel Houellebecq, qui, je le rappelle, mesure l'envie de se pendre et de pas se laver les cheveux pendant 8 ans. Et avec Pierrot, on avait gardé contact, voilà, à force de se croiser. Et donc, je suis allé le voir ce matin, déjà dans un premier temps, pour prendre de ses nouvelles. Comment va le moral?
Très bon, excellent moral.
Un excellent moral pour un socialiste?
Excellent moral.
Et Pierrot, vous n'êtes pas dans le déni?
Non, pas du tout.
Mais pourquoi le moral est bon au Parti Socialiste? Est-ce qu'il y a vraiment des raisons?
Le moral est bon parce qu'on a un très bon candidat, en l'occurrence Stéphane Le Foll.
Évidemment, je suis con. Quant à Stéphane Le Foll comme candidat, le moral est bon. Il y a plein de trucs qui te donnent le moral dans la vie de la même manière. Choper la varicelle aussi, t'es content. Recevoir une photo dédicacée de Tex, ça redonne la patate. Alors, Pierrot, pourquoi il va voter Stéphane Le Foll?
Je pense que c'est le meilleur des quatre, quoi.
Qu'est-ce qu'il a comme proposition forte dans son programme, là?
Sa loyauté déjà à François Hollande. Il défend le bilan de François Hollande, ce qui est déjà pas mal. Personne ne le défend déjà.
Ah mais est-ce que c'est une bonne idée de faire ça?
Tout à fait, c'est une très bonne idée. Il faut être fier du bilan de François Hollande.
Sérieusement, oui.
Sérieusement.
Mais qu'est-ce qu'on peut défendre dans le bilan de François Hollande?
On peut défendre pas mal de mesures, comme le compte pénibilité, emploi. Il y a pas mal de mesures. Il y a des trucs. J'ai pas tout en tête.
Là, c'est difficile de voir.
Oui, tout à fait.
Il y a beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qu'on les a oubliées.
Non, on les a pas du tout oubliées. C'est vous qui les avez oubliées.
Non, attends, moi je m'en souviens. Le CICE, plus de 40 milliards de cadeaux aux entreprises. La loi renseignement. La déchéance de nationalité. Il y a toute une œuvre. Hein. Jean Jaurès, il s'est retourné tellement de fois dans sa tombe, on lui a foutu une dynamo. Ça produit l'électricité pour tout le bassin parisien. Mais Stéphane Le Foll, il est loyal. Et c'est ça qui importe à Pierrot, la loyauté. D'ailleurs, à propos de loyauté, est-ce qu'après la primaire, il y en a eu beaucoup?
Il y a eu des divisions, certes, mais tout le monde et la majorité n'ont peut-être pas soutenu Benoît Hamon. On n'en serait pas arrivé à 6,3, je pense.
Ah oui, mais on parlait de loyauté. Alors, dis donc, Pierrot, vous n'avez pas été très loyal non plus?
Si, on a été très loyal, tout à fait. Pourquoi on n'a pas été très loyal?
Parce que vous n'avez pas soutenu du tout Benoît Hamon.
Benoît Hamon, à titre personnel, je l'ai lâché, oui.
Ah ben voilà, c'est pas de la loyauté, ça.
Voilà, lui nous a lâché après, et puis il a rendu le parti à 6,3, donc quel bilan?
Ah ben oui, mais 6,3 parce que vous l'avez lâché.
Pas du tout.
Non, bah dis donc, ouais, un petit peu quand même, mon Pierrot, là. Je dis pas qu'il aurait fait 80%, mais bon, au niveau trahison, Manuel Valls, il a quand même chopé le prix Brutus, hein, pour l'ensemble de son œuvre également. D'ailleurs, puisqu'on parle de Valls, est-ce qu'il a des nouvelles?
Il soutient de loin ses amis socialistes, il n'y a aucun souci, il est très loyal, Manuel Valls.
Il soutient de loin en leur envoyant des petits coups de latte, quand même, des petits coups de couteau?
Non, pas vraiment, non, ça c'est... J'ai jamais vu ça.
Ah bon, on a l'impression quand même, non?
Ah, pas du tout.
Bah, Pierrot, enfin...
Bah, Pierrot, non, il n'a pas du tout cette impression.
Ah bah, Pierrot, il n'a pas regardé les infos depuis une bonne cinquantaine d'années, à mon avis. Et encore, je suis certain qu'à l'âge de 5 ans, Manuel Valls, il trahissait déjà ses Playmobil avec ses Lego. Il faisait des 49-3 pour pas finir sa purée. Mais bon, évidemment, tout ça, vous l'avez compris, c'est du passé. Et Stéphane Le Foll, c'est l'avenir. Et mieux, je dirais, c'est le présent.
Stéphane Le Foll est en 2018, au 21e siècle.
Ah, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dans son programme.
Ben, il veut mettre le Parti Socialiste en avant déjà, c'est déjà pas mal.
Mais ça, c'est pas vraiment un programme.
Oh, c'est pas un programme, mais attendez les résultats ce soir. On n'est pas encore dans le programme, on est dans le choix d'un candidat pour nous représenter.
Ah d'accord, c'est juste un casting en fait.
Ben, c'est l'élection du premier secrétaire.
Donc il faut que j'attende de savoir qui va être élu pour savoir son programme.
Il n'y a pas de programme, on n'est pas au théâtre, il n'y a aucun programme pour l'instant.
Ah ben d'accord, ben, je crois que c'est mieux comme ça. Écoutez les gars, écrivez rien du tout. Ça va aller plus vite vu les défaites qui s'annoncent. Alors attention, je ne veux pas non plus tirer sur l'ambulance, vous l'avez compris. C'est ça aussi la gauche, être le porte-voix des plus faibles. Et c'est ça aussi qui a oublié depuis longtemps le Parti Socialiste.
Guillaume Meurice, merci. Si vous serez présent, Guillaume, au Salon du Livre dimanche de 16h à 17h au stand Flammarion pour signer votre roman Cosmé.
C'est vrai.
C'est beau. Merci. Axel Red est avec nous jusqu'à 18h et ce deuxième sujet, c'est à propos du président Macron qui veut redonner de l'influence à la langue française. Il ambitionne même d'en faire la première langue d'Afrique. Alors il y a déjà plus de francophones à Kinshasa qu'à Paris. Et beaucoup d'intellectuels africains y voient un léger penchant néocolonialiste ou du moins de l'ethnocentrisme de vouloir repousser encore cette influence française. Alors s'il est aussi question de ralentir la progression de l'anglais, ça c'est sûr, on peut compter sur les Français.
My flowers are beautiful. Très bien, j'avoue.
Your flowers are not beautiful.
Not beautiful. Vous voyez le sens de la négation? Vous voyez, alors, traduction.
Mes fleurs sont belles.
Très bien. À vous.
Vos fleurs ne sont pas belles.
Voilà. My flowers are beautiful.
Your flowers are not beautiful. Oui,
my flowers are beautiful.
Your flowers are not
salaire.
Beautiful. My flowers. Vos sont en tarte.
Le gendarme à New York, avec Louis de Funès, qui a beaucoup contribué à votre perfectionnement du français, Axel ouais. Red. Alors, tiens, on se demande un petit peu le point de vue de la Flamande sur ce sujet, parce qu'il y a en France un combat permanent pour l'influence du français à travers le monde. En Belgique, partie francophone, on connaît un peu moins ça, cette volonté d'avoir des institutions qui font rayonner le français, etc. Vous qui chantez en français, qui êtes flamande, qui parlez anglais fluently, vous en pensez quoi de cette volonté de ne pas perdre de terrain?
Je trouve que j'étais en Asie en tournée avec cette tournée acoustique et notamment au Vietnam où j'ai chanté à Canto dans l'université et il y avait donc les étudiants qui avaient appris une chanson en français de moi et donc c'était
ah oui donc l'influence elle est bien
mais donc voilà donc c'était et donc toute l'organisation c'était avec le but effectivement de répondre un petit peu cette langue française qu'est-ce que je peux dire si on y va d'une façon coloniale et on impose et avec des grosses chaussures non.
Ouais. Mais par l'art, etc.
Mais par l'art, il y a moyen de le faire d'une façon intéressante. Ça reste une belle langue. Je trouve ça quand même un peu dommage qu'il n'y aurait que l'anglais pour finir ou que le chinois.
Ouais, oui. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est une difficulté d'écrire en français. Vous dites d'ailleurs beaucoup dans les interviews que c'est maintenant que vous commencez à prendre du plaisir parce que ça fait des années que vous travaillez la langue. C'est difficile le français.
Mais la beauté se mérite.
C'est vrai. Bah oui. Parce que je me suis surtout parce que c'est surtout que je suis influencée par cette musique qui est américaine mais avec un peu de travail on y arrive et aujourd'hui c'est vrai que je prends un plaisir énorme et je trouve même que comparé aux voix témoins qui sont pas des textes complètement terminés mais quand même je trouve que je gagne quelque chose et elle est chic cette langue et le son est beau et même s'il est plus loin dans la gorge et qu'il faut vraiment chercher comment placer la voix pour moi le résultat final il est il est beau. Et puis, je sais pas, franchement, moi, je retombe amoureuse de cette langue. Donc.
C'est magnifique d'entendre une néerlandophone ambassadrice de la langue française. Tiens, prends ça, le gouvernement. Axel Red, avec nous et en face de vous.
Le néerlandais peut être très beau aussi, ah oui, parce que je vais pas renier ma langue. Ce qu'on a juste en commun, en fait,
c'est un peu plus guttural, juste.
Quand on m'entend parler, souvent on pense qu'on est fâché, mais c'est pas grave.
C'est vrai. Et si on disait en néerlandais, maintenant c'est l'heure de Clara Dupont-Monod, comment on dirait?
Nu is het hoog tijd voor Clara Dupont-Monod.
Yeah, oui, ouais. Avec un air aussi sinistre, non.
C'est parce qu'elle n'est pas contente, comme tout le monde. Hein, donc,
Ça se mérite, Clara Dupont-Monod.
Oui, alors là, je mérite pas. Là.
Sprig Frans, allez, c'est parti.
Sprig Frans, voilà. Oui, parce que l'actualité, Axel, c'est aussi le testament de Johnny Hallyday, qui est examiné aujourd'hui par la justice française, qui a renvoyé l'affaire d'ailleurs au 30 mars, donc ça ne servait à rien, mais bon. Et alors, j'entends autour de moi qu'une question cogne dans toutes les têtes, une question bien plus glamour que l'avenir de la dette publique. Qui est vraiment Laetitia Hallyday? On se la pose tous cette question. Mm-hmm. Qui est vraiment cette femme qui n'a pas vu d'inconvénient? Mais non, vous allez voir. Qui n'a pas vu d'inconvénient. Je vais torpiller votre prochaine chronique. Qui est cette femme qui n'a pas vu d'inconvénient à ce que l'héritage de son mari la désigne comme seule destinataire? Et je sais que la question vous obsède, Axel Red. Nous en parlions tout à l'heure dans le couloir. Alors, il y a. Non, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Il y a une hypothèse. Je voyais votre visage un peu affolé. Il y a une hypothèse qui n'a pas encore été envisagée. C'est et si Laetitia a faisait sa middle life crisis. Mais oui, cette crise de milieu de vie.
C'est un peu tôt, qu'est-ce qu'on doit faire à 50 ans?
Non, elle a on en fait une deuxième. En gros, c'est vers la quarantaine. Et c'est une crise donc, de milieu de vie que tout le monde peut connaître, Laetitia Hallyday compris.
Tout ça pour arriver à un livre.
Cette crise, je torpille aussi la vôtre la prochaine fois de chronique.
Mais torpillez pas trop parce que sinon on sera en retard.
Je vous remercie. Cette crise de l'âge adulte consiste à dire ou à faire n'importe quoi, avec la sincère conviction que ce n'est pas n'importe quoi. Alors, mine de rien, je viens de résumer la vie de Guillaume Meurice, mais en effet, certains sont nés dans une sorte, middle life crisis permanente, et c'est le cas de Guillaume Meurice, mais ceci est un autre problème. Ce qui est sûr, c'est que la littérature adore cette crise. Et j'en veux pour preuve un livre qui vient de sortir, un premier roman.
Ah, nous y voilà.
Excellent. Qui s'appelle...
Sur la crise ou sur elle?
Vous allez voir. Non, sur la crise. Qui s'appelle Une mère modèle, de Pierre Linhart. C'est un premier roman qui évite tous les écueils du premier roman. Ça commence comme une publicité pour Ricoré et ça se termine comme, la famille, comme dans la famille Hallyday. C'est-à-dire que c'est l'histoire de Florence qui a la quarantaine, qui a un enfant de 10 ans, qui a un métier de musicienne qu'elle adore, qui a un mari qui vit à New York, donc en plus elle ne partage aucune chaussette sale avec lui, donc c'est absolument le rêve. Mais le rêve commence à se fendiller. Il commence à l'énerver son mari parce qu'il est très sûr de lui. Et puis son môme, il commence aussi à l'énerver quand il passe la tête comme ça devant Skype et qu'il dit « Oh bah papa, maman, elle a fumé une cigarette ». En revanche, l'énerve beaucoup moins ce collègue aux yeux verts, le collègue de travail, qui lui propose régulièrement des pauses cigarettes. Et c'est ce collègue, ce frisson érotique, qui servira de bouton play au grand mixeur de la middle life crisis. Alors au début, Florence, elle gère et puis évidemment après, elle ne gère plus du tout. Et sans le savoir, elle rejoint un groupe littéraire que j'affectionne particulièrement, on pourrait appeler ça un girls band, qui compte entre autres l'exquise Madame de Rênal, le Rouge et le Noir de Stendhal, parce que elle, c'est le modèle de la douceur angélique, absolument délicieuse, qui se prend la middle life crisis en pleine poire. Elle est mariée, elle a 3 enfants, mais... Je cite Stendhal, « Après de longues années, Madame de Rênal n'était pas accoutumée à ces gens à argent au milieu desquels il fallait vivre. De là, le succès du petit paysan Julien. Parce que paf, voilà Julien Sorel, le bouton play de la crise. Et pour la délicate Madame de Rênal, c'est sismique. » Dans le girls band en question, il y a une autre héroïne qui est à l'opposé de Madame de Rênal, qui crame tout. C'est cette fameuse tête brûlée d'Anna Karénine, que Juliette et moi, nous aimons beaucoup, de Tolstoï. Alors elle, middle life crisis, ça veut dire feu d'artifice à tous les étages. En gros, quitter son mari, ouais. Quitter son môme, ouais. Partir à l'étranger, ouais. On y va. Et tout ça pour un gars qui n'est même pas son genre.
Et qui a une calvitie naissante.
Et de surcroît, Vronsky a exactement... Vronsky a une calvitie naissante. Et puis il y a un troisième cas de figure.
Il paraît que c'était un mauvais amant.
Ah bah on verra. Bah en tout cas, ça ne l'empêche pas d'être très accroché à lui. En tout cas, il y a un troisième cas de figure, c'est la middle life crisis pas assumée. Alors elle, c'est Madame Arnoux dans l'éducation sentimentale de Flaubert. Et même cas de figure, femme mariée avec un enfant installé, elle chavire pour Frédéric et Elle se tâte. Je sais pas si j'y vais, j'ai envie de tout valdinguer, mais je le fais pas. Il faut voir. Finalement, elle lui donne un rendez-vous d'amour à Paris, dans une chambre, rue Tronchet, donc le Robert avait de l'humour, et elle ne vient pas. Et Frédéric devient fou, et Madame Arnoux lui balance un pauvre argument pourri. Elle lui dit, non mais mon enfant, il avait de la fièvre, il était malade, ce qui était l'équivalent de notre époque de, je passe sous un tunnel, je te rappelle. Mais c'est ça en fait. Vous noterez que tous ces livres ont été écrits par des hommes qui se mettent dans la peau d'une femme, un truc que Harvey Weinstein aurait dû faire, hein, ça serait changé plein de choses. Et Pierre Linhart n'échappe pas à la règle, il se met dans la peau de Florence, au niveau de la maternité, du corps et du désir, et surtout il fait un portrait de femme fragile et frondeuse, résumé en une phrase que j'aime beaucoup, j'en ai marre de ceux qui veulent mon bien. Je vous donne les références, une mère modèle de Pierre Linhart est parue chez Anne Carrière.
Merci beaucoup Clara Dupont-Mono, ça donne très envie. Axel Red, un dernier petit devoir pour vous, si vous l'acceptez.
C'est la tradition, le sketch de fin de l'émission. Gros casting aujourd'hui, attention, ça n'a pas rigolé. Vous découvrez le texte. Vous jouez l'assistante de Theresa May, la première ministre britannique. Juliette et Theresa May, je suis Vladimir Poutine, Charline est Angela Merkel et Clara dans le rôle tant attendu de Donald Trump. On va revenir sur la mort du fameux ex-espion russe. On est parti.
Monsieur Poutine est arrivé, Madame May.
Ah, très bien.
Putain, ça va chier.
Pardon ? Non, je disais, faites-le entrer.
Bonjour, Madame May.
Alors, Vladimir, on a joué au petit chimiste ?
Pardon ?
Oh, ça va, fais pas le malin. On sait que c'est toi qui es derrière l'attaque chimique de Salisbury.
Ah bon ? Et quelles sont vos preuves ?
Enfin, y a des militaires russes qui ont accès à l'agent chimique Novichok.
Moi, et à part ça ?
Depuis 2006, 14 personnalités gênantes pour le Kremlin ont été assassinées sur le sol britannique.
Ouais, en gros, vous n'avez aucune preuve. Vous faites de la russophobie, tous les médias le disent.
Ah bon ? Les médias disent ça.
Oui, Russia Today, Sputnik, ils sont tous d'accord là-dessus.
Madame May, Madame Merkel vient d'arriver.
Faites-la entrer.
Bonjour, Madame Merkel.
Ah, ça va chier.
Pardon ?
Non, je disais, on va s'expliquer.
Exactement, pas question de rester les bras croisés.
On va prendre tes mesures de rétorsion.
La Sibérie, c'est tropical à côté de ce qu'on te prépare.
J'aimerais bien voir ça.
On va arrêter les importations de vodka vers l'Europe.
Un russe boit autant que 100 Européens. Autant dire que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.
Très bien, eh bien, on va arrêter les exportations de nourriture anglaise vers la Russie.
Ah, ça, c'est une bonne idée.
Si tu le prends comme ça, alors on va doubler les exportations de nourriture anglaise vers la Russie.
Ah non, ça c'est dégueulasse.
Ouais, bah fallait pas jouer avec mes couilles, Vladimir.
On va faire tous les diplomates à coups de pompe dans le terre.
Ah non, pas mes espions.
Pardon ?
Pas mes diplomates.
Et on boycottera la Coupe du Monde en Russie.
Eh ben, ça vous évitera de vous faire sortir dès le premier tour, les Anglais.
Retire ça tout de suite, enfoiré.
Madame May, on a Donald Trump au téléphone.
Manquez plus que ça. Mettez-le sur le haut-parleur.
Hello, ici Donald. Oh, tu sais, Theresa, c'est le meilleur coup de téléphone que tu as jamais reçu.
Super, viens-en au fait, s'il te plaît.
Mais écoute, je pense pas que c'est Vladimir qui a fait le coup. C'est un type super, il m'a toujours soutenu.
Ouais, ok, merci Donald, il faut que j'y aille.
Me too. Mon émission préférée sur Fox News va bientôt commencer.
Madame May, il y a Monsieur Macron sur l'autre ligne.
Passez-le-moi.
And that's why we are here.
Ok, merci pour cette intervention, Manu.
Bon, je crois qu'on s'est tout dit, hein. Je peux vous offrir quelque chose à boire, thé, café.
Ah non, merci.
Non, merci.
On est allergique au polonium. Axel Red, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous.
C'est génial.
Merci beaucoup. Bah, on était ravis de vous recevoir. Je rappelle, Axel Red, son dernier album s'appelle Exil. Il sort demain. Et puis, Axel Red sera bien sûr plus tard en tournée. Mais là, elle sort de 200 dates. Donc, on respire un peu. On va le 2 juin à l'ancienne Belgique à Bruxelles. Et puis après, elle passera certainement par chez vous ou pas loin. Merci beaucoup, Axel Red.
Plaisir. Merci.
On va laisser le mot de la fin au président de la République. Hein, est-ce qu'il apprécie nos blagues?
And that's why we are here.